Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde la cuisine comme fait culturel majeur. Les Bonnes Choses, c'est un plat du jour, une madeleine et une cerise sur le gâteau. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 avec notre partenaire, la plateforme des cultures du goût Alimentation Générale et donc Pierre Hiverna qui la dirige. Bonjour Pierre.
Bonjour Caroline.
Chaque dimanche, en fin d'émission, vous nous proposez à 12h25 la chronique La Cerise sur le gâteau. Aujourd'hui...
Bien aujourd'hui, je vais vous parler d'alimentation et changement climatique.
Cher Matteo Caronta, bonjour.
Bonjour.
Vous nous proposez, quant à vous, le souvenir gustatif d'une personnalité, autrement dit la Madeleine, en référence évidemment à Proust. Qui donc avez-vous rencontré cette semaine?
Cette semaine, je me suis rendu au parc de la Cartoucherie à Vincennes et j'ai eu la chance de rencontrer l'acteur et metteur en scène Simon Apkarian.
Et pour notre plat du jour, direction Nantes, où se tiennent jusqu'à ce soir les tables de Nantes, la manifestation qui pense les assiettes d'aujourd'hui et de demain, avec des conférences, des ateliers, des débats et une exposition véritable temps fort de cette nouvelle édition. Une exposition qui ne peut laisser personne indifférent, ne serait-ce que, et c'est bien la première fois, parce que le ticket d'entrée est un sac à vomi. Mais comme nous sommes ouverts d'esprit aux bonnes choses et que nous ne manquons pas d'humour, nous avons dominé nos émotions et joué le jeu, qui est néanmoins très sérieux puisque les commissaires ont disposé sur des tables 80 des aliments les plus dégoûtants du monde afin de montrer la dimension culturelle de l'alimentation. Nous ne sommes pas en reste, nous Français, qui avons déjà dans nos assiettes escargots, andouillettes, grenouilles, étrilles, huîtres, époisses, maroilles, têtes de veau, cher à Jacques Chirac, et autres mets jugés particulièrement immangeables par d'autres. Mais quand vous vous retrouvez face à un hareng de la mer Baltique fermenté dans de la saumure pendant 6 mois, un plat que les Suédois dégustent avec du pain plat, des pommes de terre et des oignons, mais exclusivement en extérieur tant l'odeur est insoutenable, devant une tarentule grillée croustillante à l'extérieur mais gluante au milieu dont les Cambodgiens raffolent, ou que vous devez goûter un alcool de glande anale de castor, vous faites moins les fiers. Petit tour du monde des plats extrêmes, en compagnie de l'ingénieur agronome Gervaise Debuquet, qui est chercheuse en psychosociologie de l'alimentation.
Ce sont les fameux doubichous de Sofia.
Ah, c'est très bon.
Ce n'est que des bonnes choses, hein. C'est des cacao de synthèse avec de la margarine et de la saccharose aussi.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur.
Oui, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans faim.
Bonjour Gervaise Debuquet.
Bonjour.
C'est vous qui allez nous guider dans cette drôle d'exposition qui donne pas vraiment faim. Hein. J'espère que
Absolument.
Nos auditeurs ne nous en voudront pas trop à cette heure de déjeuner puisque nous entrons dans le musée de la nourriture dégoûtante. Alors on est accueillis à l'entrée de cette exposition par un cartel qui définit la nature du dégoût. Donc je vais m'adresser à vous presque sur un mode anthropologique. Quoi. Qu'est-ce que c'est la nature du dégoût? Qu'est-ce que c'est la fonction du dégoût? Et est-ce qu'on peut identifier plusieurs catégories de dégoût, déjà pour commencer?
Alors tout d'abord sur la fonction, il est clair que quand on est dégoûté par un aliment qui par exemple est pourri ou corrompu, qui a une odeur absolument détestable, c'est une façon de se protéger de l'empoisonnement et de l'intoxication alimentaire. Donc il y a une fonction de survie, voilà, qui est souvent innée puisqu'il y a des odeurs comme l'odeur âcre, l'odeur ammoniaquée, l'odeur acide par exemple, amère, ce sont des signaux olfactifs qui de manière pratiquement innée nous empêchent de manger tel ou tel aliment. Donc il y a cette première chose. Ensuite, il y a bien sûr d'autres signaux olfactifs qui se construisent en fonction de la culture alimentaire à laquelle on appartient. Et autre chose aussi, ce que montre un peu l'exposition, c'est qu'on est quand même plutôt particulièrement dégoûté par les substances animales que les substances végétales. Et on n'a qu'à regarder dans les 80 objets qui sont exposés. Nous n'avons trouvé qu'un exemple végétal, le durian, sur lequel on reviendra tout à l'heure. Ce qu'on peut dire aussi, que c'est ce qui nous dégoûte, ce sont dans les parties animales, les organes. Voilà, nous consommons de la chair, de la viande qui résulte de l'abattage d'un animal. Mais manger les organes, c'est beaucoup plus compliqué parce que ces organes sont dans la représentation, le siège, on va dire, des émonctoires du corps. Ce sont les filtres du corps, toutes les toxines du corps qui passent par là. Donc, mais bien sûr, on les cuisine en France, on les cuisine. On verra qu'on mange des tripes, des abats, mais que l'on va cuire longtemps pour essayer d'évacuer toutes ces substances pas forcément positives. Et puis, dans ces organes aussi, il y a peut-être un statut particulier pour les organes sexuels dont on verra qu'ils ont parfois un rôle ambivalent. On verra que parfois on veut les consommer parce qu'on y projette des images d'aliments aphrodisiaques. Mais dans la grande majorité des cas, on sait que ce que l'on consomme en France, c'est de la viande, en France et ailleurs en grande partie, issue d'animaux qui ont été tout d'abord castrés. Et puis peut-être aussi des interdits moraux liés à la religion, liés, on verra, pour certains animaux, qui sont aussi, on va dire, d'autres facteurs qui nous empêchent de manger tel ou tel aliment. Voilà, pour faire court.
Vous disiez que on a des rejets innés, d'autres qui sont acquis. On va voir aussi en quoi l'imaginaire provoque parfois le dégoût, alors que l'aliment en soi ne nous dégoûterait pas si nous n'imaginions pas ce que c'était, disons.
Absolument.
Est-ce que vous diriez malgré tout que le dégoût est universel ou bien qu'il est culturel? C'est l'idée de cette exposition, hein, de montrer que le dégoût est culturel et que donc ce qui nous dégoûte, nous, par exemple en France, n'est pas du tout la même chose que ce qui dégoûte le reste du monde, et vice-versa, bien entendu.
Mais on va dire que dans le champ de tout ce qui est comestible, puisque tout ce qui est comestible, c'est ce qui ne met pas en danger notre vie ou notre survie immédiate, dans tout ce qui est comestible, il y a des choses qui sont mangeables et d'autres qui ne sont pas mangeables. Et c'est là qu'intervient la culture culinaire, la culture alimentaire à laquelle on appartient et qui va nous aider à classifier les choses, à mettre de l'ordre dans ce désordre apparent, parce que l'étendue des choses comestibles est absolument immense. Si on regarde les productions terrestres, si on regarde végétales, animales, les productions marines, on a le choix. Mais effectivement, on ne peut pas tout manger et c'est la culture qui nous aide sans qu'on en ait totalement conscience. Et c'est pour ça que c'est intéressant l'exposition, parce que c'est un effet de miroir, c'est un jeu de miroir. Et c'est en voyant ces aliments que ça nous renvoie nous-mêmes à nos propres choix alimentaires, dont on n'a pas forcément conscience.
Alors c'est un tour du monde des saveurs et des plats extrêmes. Quand on entre dans l'exposition, Gervaise de Buquet, on est accueilli par exemple par le casu marzu, fromage de Sardaigne, fromage d'Italie qu'on peut retrouver en Corse, qui a la particularité d'être investi de petits asticots.
Qui sont vivants, voilà, il faut bien le préciser, c'est que évidemment un fromage, dans un fromage il y a un processus de fermentation, on va le conserver plus ou moins longtemps, il y a des fromages qu'on peut garder 7-8 ans, qu'on peut trouver sur les marchés corses par exemple. Et évidemment, il y a parfois des petites bêtes pas très drôles qui ont investi le fromage. Et là, ce que l'on voit, ce sont nos asticots au milieu du fromage qui bougent et que l'on est censé consommer avec le fromage. Bah là, le problème, c'est l'asticot est relié à l'image de la putréfaction. C'est ce qu'on trouve dans les cadavres ou ce qu'on trouve dans les sols. Donc, c'est quand même plutôt associé à ce qu'il y a sous terre. Et puis, surtout, c'est qu'il bouge, il est vivant. Et manger du vivant, c'est pas simple. Mais pourtant, on le fait puisque ce fromage, on peut le consommer et on mange aussi des huîtres, on y reviendra, qui sont vivantes également. Mais voilà, on a à la fois une image négative liée à l'origine de ces asticots, associés à la putréfaction, et puis le fait que ça bouge en bouche et que ça croque éventuellement.
Alors la particularité de cette exposition, c'est qu'on peut toucher, sentir, goûter un certain nombre de ces aliments. Parfois, on a plus ou moins envie, on va dire. Les postes, on peut le sentir. Alors, pendant que je vous laisse l'ouvrir et le sentir, je vais lire le cartel qui accompagne les poisses. C'est un fromage mou au lait de vache qui possède une couleur rouge orangée et qui dégage une odeur très acre. Gervaise de Buzet, c'est ça, c'est acre. On ne peut le confectionner que dans les villages situés près des poisses. Ouais. Il est âgé de 4 à 6 semaines et rincé 2 fois par semaine de saumure et de brandy. C'était le fromage préféré de Napoléon et on raconte qu'il fut interdit dans les transports public en raison de sa forte odeur. C'est drôle parce que c'est aussi toute une histoire. On verra tout à l'heure la langouste, mais le homard fut un temps, il y a 200 ans, où le homard était tellement indésirable qu'on le donnait aux esclaves et aux prisonniers. Oui. Aujourd'hui, le homard, c'est un produit de luxe. C'est aussi l'histoire des produits.
C'est la même chose. Alors le homard, mais on peut dire la même chose sur les huîtres. Les huîtres, quand on lit différents ouvrages en Grande-Bretagne, en Irlande, etc., on voit que ces coquillages étaient laissés sur le bord de la côte. On ne les mangeait pas, on les laissait. On n'avait absolument pas envie de manger. C'est plus tard qu'on les a ennoblis, quand c'est arrivé sur les tables des plus riches et qu'on leur a donné une valeur très particulière. Et aujourd'hui, manger des huîtres, c'est quand même un plat festif qu'on va manger dans des conditions sociales. On ne mange pas tout seul ce genre
d'aliments. Alors que les huîtres font partie d'un ensemble, qui est un deuxième ensemble, après le fromage, d'un ensemble qu'on pourrait rassembler, Gervaise de Buquet, sous le terme de visqueux, gluant. Et là, on a des escargots de Bourgogne, par exemple.
Alors c'est vrai que le visqueux, le gluant, ce sont aussi des textures qui posent un petit souci. C'est pas facile de les ingérer au départ. Alors nous, nous mangeons des escargots, donc nous passons à l'étranger pour des mangeurs d'escargots, chose qui n'est pas toujours facile. Mais là aussi, c'est parce que des cuisiniers, des recettes ont petit à petit incorporé ces aliments. Alors aliments davantage consommés par les plus âgés, les générations plus jeunes ont tendance à perdre parfois l'habitude de consommer ce type de produit, mais on peut, avec le gluant quelque part, ou le visqueux, ou voilà, des choses qui ressemblent, des escargots, des bigorneaux également, il faut un petit temps quand même pour s'y habituer puis les consommer, mais ça fait partie de notre horizon alimentaire français.
Il y a le goût.
Le goût.
Et puis, comme on commençait de le dire sur les poisses, par
l'odeur,
exemple, il y a l'odeur. Voilà. Et alors là, je crois qu'ils ont choisi, les commissaires de cette exposition, un plat qui vient de loin, qui est un requin d'Islande. Alors,
voilà.
Pour manger la viande toxique du requin du Groenland, les Islandais la laissent d'abord pourrir dans la terre, puis on la suspend pour qu'elle sèche. Et ça a une odeur particulièrement âcre de pourriture et d'ammoniac. On retrouve de toute façon toujours l'odeur d'ammoniac quand on parle de l'odeur pourrie.
Voilà, l'ammoniac est objectivement l'odeur qui résulte de la dégradation des protéines, voilà, qu'elles soient en général animales ou venant ici de la mer. Et voilà, ce requin toxique au départ, hein, parce que je lis aussi avec vous ce qui est marqué, eh bien, par ce processus de fermentation, on le rend comestible et on le rend mangeable pour la population islandaise.
Alors que l'odeur est encore pire que le goût, et qu'on a pu décrire ce goût en le comparant au fait de mâcher un matelas infesté d'urine. Le célèbre chef Anthony Bourdin a décrit la carle, littéralement le requin en islandais, comme la chose au goût le plus affreux et le plus dégoûtant qu'il ait jamais mangé. Comme quoi, hein ?
Comme quoi c'est relatif aussi, et comme quoi aussi les Islandais ont pris l'habitude de le consommer parce que ça fait partie de leurs habitudes alimentaires.
Alors c'est difficile de trouver quelque chose qui donne vraiment envie de sentir, de toucher ou de goûter, mais il faut vraiment prendre aussi cette exposition avec beaucoup de sérieux,
oui.
C'est ce qu'elle dit au fond, mais aussi avec beaucoup d'humour. Alors avant d'écouter la Madeleine, j'espère que la Madeleine va nous éveiller un peu plus les papilles, mais nous allons nous arrêter, par exemple, sur ce qu'on appelle au Japon le shirako. Je vais vous laisser lire ce que c'est.
Alors, le shirako sont des sacs à sperme de poisson remplis de fluide séminal, donc le fluide sexuel. C'est un mets délicat que l'on consomme durant les mois d'hiver au Japon. Voilà. Alors, qui se traduit par enfant blanc, c'est le sperme de morue le plus facilement accessible. Là, c'est l'illustration de ce que je disais au départ, c'est que les attributs, les organes sexuels que constitue ici le sperme ou bien les testicules qui sont consommés dans divers endroits du monde également, y compris chez nous d'ailleurs, puisque plutôt dans les milieux ruraux, on consomme nos fameux rognons blancs qui sont des testicules, mais on appelle ça des rognons blancs. On voit que ces organes sexuels ont un statut très particulier aussi. Voilà. Donc, ce ne sont pas des mets extraordinaires, mais qu'on va manger dans des contextes particuliers. Et parce qu'on va y projeter tout un imaginaire associé à la sexualité, la virilité, l'ardeur sexuelle. Et ce sont peut-être aussi plus souvent des hommes qui vont les consommer pour toute cette symbolique que nous incorporons en même temps que les composés nutritionnels de ces aliments.
Et alors, c'est d'ailleurs amusant avec le shirako, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver avec le kopi luwak, qu'on va essayer de retrouver avant qu'on se sépare, voilà, qui est ici. Et qui tout simplement
très
des graines de café qui, d'après ce que nous dit la légende, c'est le café le plus cher du monde. Quand on les regarde comme ça, ces graines de café, eh ben, on se dit, oh bah tiens, ça a l'air très bon, c'est comme du café enrobé de chocolat. Et puis quand on lit la légende, on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout enrobé de chocolat, c'est enrobé des excréments rejetés, les petits animaux qui ressemblent à des chats appelés des civettes de palme asiatiques, qui mangent ces cerises de café mûr. Et donc, le café est fait à partir de là. Pour dire quoi ? Pour dire qu'en fait, c'est aussi la façon dont on projette les choses. Notre imaginaire nous aide à nous dégoûter. C'est-à-dire que si on ne lisait pas
on
le
cartel,
on dirait des grains de café enrobés
de
chocolat.
Voilà.
Mais à partir du moment où on sait qu'en fait, ces grains de café ils sont enrobés d'autre chose que du chocolat,
ça change la donne.
On n'a pas à dégoûter.
Voilà. Surtout que là, bon, ils sont passés par le tractus, on va dire, intestinal d'un animal. Alors voilà, il y a des explications scientifiques qui font que voilà, les enzymes digestives vont permettre de prédigérer. C'est une sorte de prédigestion. Mais il est vrai que généralement, s'il y a bien une chose qu'on ne mange pas facilement, sont les excréments. C'est pas fait pour ça, l'excrément. C'est la fin du tube digestif. Là, c'est très étonnant parce que c'est passé par un tractus intestinal et on va ensuite manger ces grains de café. Voilà. Alors effectivement, il faut mieux ne pas lire l'étiquette.
C'est ça. Mais c'est de là qu'on passe du dégoût inné au dégoût acquis.
Voilà.
Au
voilà,
dégoût culturel.
Voilà.
On vous retrouve dans quelques minutes. On laisse passer la Madeleine. Vous écoutez les bonnes choses sur France Culture.
Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur épouvantable ?
Ah oui, c'est vrai. On croirait une boule puante.
Ça, il faut reconnaître que l'odeur n'est pas très agréable.
Mais c'est parce que c'est très chaud. Les spotsy fermentent à la bi-cuisson, les odeurs s'exhalent.
Ah oui, comme une fosse sceptique, quoi.
Alors Mathéo, vous avez profité de cette escapade nantaise pour vous échapper vous aussi et vous vous êtes rendu à la cartoucherie de Vincennes pour cette madeleine.
Oui, la cartoucherie de Vincennes, vous savez, c'est là que se trouve le Théâtre du Soleil créé par Yann Mouchkine dans les années 60. Et bien c'est justement au Théâtre du Soleil que Simon Abkarian met en scène sa dernière pièce, Électre des Bas-fonds. Dans le mythe, Électre s'allie avec son frère Oreste pour venger la mort de son père Agamemnon, lâchement assassiné à son retour de Troie par la main de sa femme. Dans la version de Simon Abkarian, les genres et les classes sociales se mélangent pour pouvoir accomplir leur destin. Pour sa Madeleine, Simon Abkarian ne remonte pas jusqu'à la Grèce antique, mais jusqu'à son enfance, évidemment, en 1971, quand sa mère revient de voyage.
La première fois que j'ai découvert le taboulé, ça m'a fait quelque chose de particulier. C'est ma mère qui l'a ramené de Beyrouth. Elle était partie à Beyrouth, elle a ramené beaucoup de choses à manger, dont le taboulé, qui était passablement fatigué, mais il ne l'avait pas mélangé avant de prendre l'avion, donc voilà, on l'a mangé quand elle est arrivée. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais goûté auparavant. C'est un goût pour moi inédit, quoi. Ça, c'est un monde dingue. Le taboulé libanais, c'est très simple, c'est ouvert. C'est à base de blé concassé, fin et entier, c'est meilleur. On le mouille avec un peu d'eau et de citron. On râpe un oignon entier dessus. Une cuillère de sauce tomate fait maison pour donner le goût. Sel, poivre, un peu de cumin. Et on laisse gonfler l'eau un petit peu. Il y en a qui le mettent au dernier moment et que ça craque. Moi, j'aime pas. J'aime bien quand le blé est bien imbibé. Ensuite, on nettoie les persils, on les lave à l'eau. On les fait tremper dans le vinaigre pour que ça tombe bien. On le hache et on mélange l'huile d'olive, évidemment, et on sert. C'est surtout un repas de dimanche, parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de travail de petites mains. Donc c'est tous les enfants qui aident les mamans à le faire pendant que les gars ils allument le feu et pour faire cuire la viande dessus, quoi. Moi j'aimais bien cuisiner, j'aime toujours cuisiner. Donc ouais, j'ai beaucoup aidé ma mère, ma grand-mère, mes tantes à faire la cuisine. Mais elle faisait attention à ce que je mette pas les tiges du persil. Il faut les détacher feuille par feuille, quoi. Parce que la tige elle a un goût trop fort. Donc c'était du boulot, donc comme j'étais impatient, je me faisais remettre dans le droit chemin, on va dire. Et pareil pour le citron, quand on le presse, il ne faut pas qu'il y ait une seule pépite de citron qui aille dans le plat, parce que c'est amer, les grains de citron. Le persil, pourquoi on en met beaucoup? Parce que c'est très bon pour le transit, c'est bon pour les reins, les oignons frais aussi, c'est bon pour le sang. Donc c'est pas seulement quelque chose qu'on mange et qu'on goûte, c'est aussi presque un médicament. C'est-à-dire que la nourriture qu'on mange, elle peut être un poison comme un médicament. Mais c'est pas seulement le fait de manger, c'est le fait de cuisiner ensemble qui fait qu'on se réunit autour de la table. Parce que la table, ça reste quand même l'endroit, on va dire, le plus sacré. L'endroit le plus solennel et en même temps le plus joyeux, quoi. Parce que c'est à table que se disent et se font les choses et se défont les choses.
Merci Mathéo Caranta pour cette madeleine qui finalement nous a parlé pas mal de végétal avec toutes ces herbes. Et bah, du végétal, on en a un sous les yeux dans cette exposition qui est le musée du dégoût d'une certaine façon et que nous visitons en compagnie de nos yeux, de notre invité aujourd'hui Gervaise Debuquet. Et ce fruit qui est devant nous, vous en parliez tout à l'heure Gervaise Debuquet, c'est le durian qu'on trouve en Asie du Sud-Est et qui a la particularité lui aussi d'avoir une odeur très forte et une odeur de fait assez dégoûtante alors qu'il est très bon au goût.
Alors effectivement ce qui est intéressant c'est que c'est, d'abord sur les 80 objets qui sont exposés ici c'est le seul exemple végétal pour expliquer
que c'est rare, voilà, c'est que le végétal nous dégoûte.
Mais le durian ou le noni hein, qui est la même chose en fait qui est un fruit qu'on trouve en Asie du Sud-Est, ce qui est intéressant c'est que ceux qui l'apprécient vont dire que ça a une odeur de noisette voire d'amande voire de fruits secs et ceux qui le détestent ils projettent là des images plutôt voilà de pourriture, de fromage pourri, trop fermenté. Donc on voit effectivement qu'on n'a pas la même perception de cette odeur et il n'y a pas beaucoup d'exemples comme celui-là, mais même le fruit, même le végétal peut susciter une aversion du fait de son odeur très particulière.
Alors l'autre particularité de cette exposition, outre nous montrer par l'exemple à quel point le dégoût est culturel et donc relatif, c'est de s'interroger sur le fait qu'aujourd'hui on mange de moins en moins de viande, ou il faudrait qu'on mange de moins en moins de viande, et donc on mange des insectes, par exemple. Mmh. Aujourd'hui, on a du mal à imaginer qu'on va manger des insectes, mais on va peut-être y venir. Et puis, il faudrait peut-être aussi penser différemment notre production de viande, puisque notre viande, souvent, pas toujours, mais souvent, malheureusement, notre viande est produite dans des conditions largement contestables, aussi bien du fait des implants chimiques qu'on lui met, et je pense par exemple à ce cochon dans lequel des aiguilles sont plantées, qu'à d'autres formes de viande. Avec cette idée, Gervaise de Buzet, que d'une certaine façon, c'est une question qui est derrière, est-ce que changer notre rapport au dégoût ou changer nos idées sur le dégoût peut nous aider à adopter d'autres types d'aliments qui seraient écologiquement durables ou différents aujourd'hui. Voilà, et là, on peut se diriger pour ça, pour aborder cette question-là, vers viande élevée dans une boîte de pétri, qui est connue sous le nom de viande cultivée, qui est une sorte de viande de synthèse.
Voilà. Alors effectivement, c'est pas simple. Manger une viande qui a été produite dans une boîte de pétri, on sait aussi faire du lait de manière synthétique aujourd'hui, sans vache, sans mamelle de mammifères. Ça pose un problème parce que ça nous renvoie à l'idée que la science pénètre de plus en plus fortement notre alimentation, et produire une viande sans avoir un animal derrière, bien certes, c'est pas simple de manger la viande d'un animal, et si nous le tuons dans des conditions particulières, c'est aussi parce que nous avons une culpabilité à ingérer une viande issue d'un animal. Mais là, on est dans un scénario un peu de science-fiction extrême, où on a de la viande sans animal, donc ça n'est pas simple de l'ingérer et de se représenter l'origine de cette viande qu'on va forcément associer à l'idée d'un laboratoire avec des blouses blanches et des gens qui auront fabriqué ça. Alors la boîte de pétri, c'est l'archétype, on va dire, de l'appareillage de laboratoire, et la boîte de pétri et l'assiette, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, ce sont deux choses un petit peu antinomique, antagoniste, et qu'on n'a pas envie de voir se rapprocher. Pourtant, il est vrai que cette viande, je lis ce qui est marqué ici, elle produit 96% de gaz à effet de serre de moins qu'une viande traditionnellement élevée, mais il faudra du temps, il n'est pas sûr que ce soit facile d'ingérer ce type de choses. Vous parliez aussi des insectes.
Il y en a beaucoup dans l'exposition.
Voilà, alors nous avons aussi, il y a des insectes, mais il y a aussi des choses qui appartiennent à la même famille, des arthropodes, on a des langoustes. Et il est vrai que dans l'horizon alimentaire français, nous mangeons des langoustes, des langoustines, des crevettes, etc. Donc tous ces animaux de la mer qui appartiennent aux arthropodes. Pourtant, manger des insectes, ça nous est compliqué, difficile. Là aussi, parce qu'on n'a pas été habitué à consommer ce type de produit. Alors, on a des éleveurs qui aujourd'hui élèvent des insectes en France. Mais ce que l'on sait déjà, et c'est juste assez évident, c'est qu'on pourra peut-être les consommer si on les transforme préalablement en farine, c'est-à-dire si on enlève tous les attributs qui, les fanères, etc., les pinces, les yeux, qui nous rappellent que c'est un insecte. Donc on pourra peut-être le consommer, mais en le transformant pour oublier cette image d'insecte. Mais là encore, vous voyez qu'on peut manger ces animaux de la même famille, de par nos habitudes alimentaires, mais changer, même à l'intérieur d'une même famille animale, c'est pas simple.
C'est voilà. Changer nos mentalités, c'est changer nos habitudes. Vous parlez d'insectes, mais il y a des petits animaux qu'on mange justement dans les fruits de mer. On mange bien des araignées de mer,
oui,
sans difficulté. Et là, on a sous verre une araignée qu'on peut manger quand on va au Cambodge,
voilà.
Dans une assiette, voilà. Une tarentule grillée. Mm-hmm. On mange des araignées de mer, Gervaise de Buquet. On a du mal à imaginer des tarentules. Mm-hmm. On voit bien qu'il faut se faire d'un certain nombre d'habitudes, et ça c'est quand même le plus difficile.
C'est difficile et ça prend du temps, c'est pas immédiat, c'est-à-dire que voilà, quand on éduque un enfant tout petit, on essaie de lui ouvrir au maximum ses habitudes alimentaires, et présenter une araignée de mer à un enfant de 7-8 ans, il va aussi avoir un premier geste de recul, parce qu'il va l'associer à l'araignée qu'il a peut-être vue dans sa chambre ou dans la maison, et qui est associée à des frayeurs nocturnes. Donc voilà, oui, il faut du temps, c'est exactement ça, il faut du temps, et c'est par cette socialisation alimentaire qu'on parvient à ouvrir le champ des possibles de ce que l'on peut ingérer.
Alors je disais que dans cette exposition, on pouvait sentir, on pouvait toucher, on pouvait goûter. On va goûter, puisque cette exposition se termine par un espace dégustation sous forme d'un bar où l'on peut aller s'installer pour goûter un certain nombre de choses un peu étranges. On y va ? Donc on commence, Gervaise, par un petit alcool. Qui est
a priori une infusion, c'est ça, de glande anale de castor, d'après ce que j'ai compris. Dans de l'alcool, je ne sais plus quel type d'alcool, par contre.
It's a lot of alcohol, it's about 60% alcohol.
Okay. 60%.
Bien, en fait, l'odeur est très forte, mais au goût, finalement, ça passe. C'est un peu particulier.
C'est fort, hein.
Ouais. c'est un peu un goût de médicament, et c'est très particulier, mais je crois qu'on y projette aussi des vertus de santé.
Très bien. Okay, donc, next. Nous passons au suivant.
Alors, ces œufs, on appelle ça des œufs de 100 ans, mais ils n'ont pas été gardés 100 ans. En général, c'est 3-4 mois, c'est gardé dans une boue faite d'argile et de chaux. Et cet œuf qui, au départ, le blanc et le jaune, ça sent très très peu. Mais cette longue fermentation, dans ces conditions particulières, développe des arômes très forts. Je n'ai pas encore eu le plaisir de les goûter, mais donc je vais le faire.
Donc là, le blanc est devenu noir. Et l'intérieur, le jaune est devenu vert. Voilà, oui, effectivement. Ça, pour le coup, il n'y a pas d'odeur.
Non. Et c'est vrai que quand on a surmonté ce rejet un peu spontané lié à l'aspect, le goût, finalement, n'est pas très fort.
Eh bien, merci beaucoup. Merci, Gervaise de Buquet. Et puis, bon
merci
appétit
à
tout le monde.
Cher Pierre et Verna, on quitte cette passionnante exposition dont nous venons de parler, mais nous restons à Nantes pour les Tables de Nantes, puisque vous allez nous parler d'un sujet dont l'actualité est brûlante.
Eh bien oui, puisqu'il s'agit de alimentation et changement climatique. Et à Nantes, jeudi, on a pu passer une journée entière avec le meilleur spécialiste du sujet. Le titre de cette journée de débat était d'ailleurs assorti de cette affirmation on ne peut plus claire, s'adapter ou disparaître. D'abord, quelques constats à la base de ces réflexions, dont l'avantage est qu'ils ne sont guère niables par je ne sais quel climato-sceptique. La France a connu un réchauffement supérieur à 1 degré depuis 1900. Chacun a pu constater les différents épisodes de canicule depuis celui de 2003. Et 64 départements ont été placés en restriction d'eau cet été. Pour le vin, largement évoqué à Nantes avec une étude de l'INRA, l'Institut National de Recherche Agronomique, et la présence de Olivier Martin, vigneron du Cru et élu de la Fédération des Vins de Nantes, on sait que l'évolution climatique a des effets directs sur la qualité du vin, notamment en ce qui concerne sa teneur en sucre et donc en alcool, et que les zones viticoles sont amenées à se déplacer. Bref, sur le constat et sur l'accélération du processus, peu d'espoir de retour en arrière, et à partir de là, deux attitudes sont possibles. Laisser tomber l'affaire en mode collapsologie ou trouver les méthodes d'adaptation à court, moyen et long terme. Et à Nantes jeudi, les acteurs les plus importants parmi ceux qui pensent et agissent pour cette adaptation étaient là, et notamment l'INRA et l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui ont dévoilé des études en cours à partir de données recueillies sur le terrain et qui vont notamment donner lieu à la rédaction d'un guide intitulé « Comment développer sa stratégie d'adaptation au changement climatique à l'échelle d'une filière agroalimentaire ». En termes de méthode, j'ai beaucoup apprécié celle appliquée pour l'étude intitulée Life Agri Adapt, où l'on élabore des outils pour évaluer la vulnérabilité des exploitations agricoles au changement climatique et leur expérimentation en cours dans 130 fermes de 4 pays européens, la France, l'Espagne, l'Allemagne et l'Estonie. La méthode est redoutable d'efficacité puisqu'il s'agit au fond d'expliquer à un fermier du sud de la France que les conditions d'exploitation futures de sa ferme ne sont pas inconnues puisque ce sont celles qui font aujourd'hui le quotidien de son confrère du sud de l'Espagne. Mais était également présente à Nantes Marianne Landsettel, l'auteure allemande du livre sorti l'hiver dernier « La fin de l'alimentation ou comment le changement climatique va bouleverser ce que nous mangeons » qui nous a fait sérieusement se demander s'il n'était pas déjà trop tard. Alors Caroline, je sens que vous allez me demander ce que j'ai conclu de tous ces débats. Bien, pour être franc, j'avoue que je n'en suis pas sorti très rassuré. Les acteurs sont là, les méthodes sont pertinentes, mais saurons-nous collectivement aller assez vite pour faire face aux migrations climatiques et nourrir la planète ? Personne ne semble aujourd'hui détenir toutes les clés et les pouvoirs nécessaires pour coordonner une action nécessairement mondiale.
Merci beaucoup Pierre et Verna. Cette chronique est à retrouver à la fois sur le site des Bonnes Choses et sur le site d'Alimentation Générale. Les Bonnes Choses se réécoutent en podcast sur le site franceculture.fr. Toute l'équipe des Bonnes Choses, Jean-Christophe Francis à la réalisation, Stéphanie Villeneuve, Virginie Ledio, Benjamin Chauvin à la prise de son à Nantes et Dalia à la prise de son aujourd'hui. Vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture. Dans un instant, c'est le journal suivi de Signes des Temps par Marc Weitzmann.